Cap Cap, Jacques Lavergne. Bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Serge Pey et Francis Fourcou qui a eu la gentillesse de l'accompagner. Nous recevons aujourd'hui deux hommes, finalement, enfin le dire, hein, je ne voudrais pas écorner leur modestie, mais deux artistes avec des domaines d'expression et des registres très différents, mais qui se sont retrouvés pour nous donner un film, et surtout un beau film qui donne à rêver, à réfléchir, un film au charme certain. L'un était derrière la caméra, Francis Fourcou, et l'autre bien sûr devant, le poète et le cinéaste. Et la particularité de ce film, de cette marche, de cette aventure poétique, c'est qu'il y a un troisième personnage dont on parle tout le temps, que l'on ne verra jamais, et pour cause, puisqu'il est décédé le 22 février 1939 à Collioure, et qu'il y repose toujours, Antonio Machado. Alors ce film, comment est-il né ? Qui c'est qui a eu l'idée ? C'est Serge Pey, c'est Francis Fourcou, c'est né de conversations ensemble.
Le film, c'est toujours l'idée du cinéaste.
Oui.
Et du réalisateur. Donc mais c'est une idée de Francis Fourcou. Quant à la marche, c'est une vieille histoire, puisque j'invente les marches de la poésie il y a plus de 30 ans, 35 ans, et c'était une marche, j'allais dire, habituelle, symbolique, mais cette fois-ci, vers la tombe d'Antonio Machado. Et c'est dans ce contexte que Francis Fourcou m'a dit, ça te plairait de faire un film ? J'ai dit, écoute, bien sûr, et ça serait formidable, surtout que de mes marches, je n'ai jamais eu de film, je n'ai jamais eu de document, et j'étais très fâché avec le cinéma, puisqu'on dirait que la parole détruit la technologie. Et chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, ça s'est détruit, notamment quand je travaillais avec Allen Ginsberg, tous les récitals que j'ai fait avec lui ont été détruits par les Beaux-Arts de Toulouse, parce qu'ils étaient incompétents à cette époque-là, etc., etc. Je pourrais faire toute une liste. Alors quand il m'a proposé ça, Francis Fourcou, je me suis dit, bon, ça va être encore une ratée, mais pourquoi pas la filmer ?
Ah, bien, moi qui ai vu quand même le résultat, et vous aussi bien sûr, ça n'a pas été un raté, bien au contraire. Alors cette marche partait d'où pour aller où ?
Mais c'est une marche qui... les marches de la poésie, ce n'est pas des marches pour marcher. Hein. Ce sont des marches intérieures. Et elles ont chaque fois une destination symbolique, évidemment. Et c'est parce que je suis parti, parce que j'habite, mon travail habite avenue Antonio Machado, à l'université dite du Mirail, aujourd'hui université Jean Jaurès, et que je me suis aperçu depuis des années, le temps passe et on ne s'en rend pas compte, que les étudiants, les utilisateurs, y compris les anciens de l'université, ignoraient complètement qui était Antonio Machado. Ils ne savaient pas le prononcer. Et j'ai été très 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 mal, une douleur épistémologique, j'allais dire, m'a traversé. Et j'ai décidé de re-réveiller la mémoire de Machado dans la maison où l'adresse réitérée porte son nom formidable. Et c'est pour ça que j'ai, pendant une année, deux ans même, j'ai décidé de parler d'Antonio Machado et j'ai fait écrire des textes aux étudiants, aux ouvriers, enfin aux jeunes que je rencontrais, des lettres destinées à Antonio Machado. Parce que quand j'ai des enfants, on écrivait Antonio Machado. Et là, j'ai fait le facteur. Et je me suis dit, je vais partir donc de l'avenue Antonio Machado et je vais aller vers Collioure et au cimetière, là où il y a la tombe d'Antonio Machado, là où se trouve cette fameuse boîte aux lettres flamboyante. Qui est remplacé régulièrement et qui est rempli de lettres et où un facteur dévoué, un syndicaliste du poème vient porter le courrier chaque jour.
C'est quand même un peu inquiétant quand on entend que dans une fac de lettres, parce que c'est la fac de lettres, on a oublié, et même les professionnels, qui étaient Antonio Machado, non ?
Mais c'est surtout les étudiants, hein, les étudiants qu'on ne connaissent plus. Antonio Machado, peut-être une poignée, évidemment, de la section d'Espagnol. Je ne leur ferai pas injure. Mais tout le reste, c'est l'ignorance la plus totale. Ils croient que ça s'appelle Mecado, Mikado, etc. etc. C'est, aujourd'hui, nous assistons, c'est un phénomène quand même important, hein, nous assistons à un révisionnisme de l'histoire, un révisionnisme de la culture, qui est au même titre que celui des camps de concentration. Hein. C'est-à-dire on révise tout et un affaiblissement total de la culture, hein, et qui fait que tout est gommé, tout est gommé. Jusqu'au jour où on remplacera le nom de la rue, et où on déterrera Antonio Machado. C'est pour ça que le poète, il a un droit de vie, pas de mort. Il a un droit de vie sur la poésie. Et c'est ce droit de vie que j'ai voulu incarner par cette marche.
Donc une marche qui est partie de l'université, Jean Jaurès aujourd'hui, et qui vous a conduit à Collioure.
Voilà,
ça s'est déroulé sur combien de jours? Parce que c'est quand même, il y a un peu de chemin à faire.
Ouais. Mes marches ne sont jamais des marches marathoniennes. Hein. Ce sont des marches qui appartiennent à la spiritualité et qui essaient d'établir des relations, qui essaient surtout de réveiller le poème à l'intérieur des gens que l'on va rencontrer. Donc ce sont des marches vraiment symboliques, surtout qu'il faut faire souvent des entretiens, il faut parler de poésie pendant la journée, on parle en marchant, et on s'arrête, et le soir, tout le temps, et parfois même à midi, hein, on va réciter nos poèmes, on fait un récital. Donc faire un récital, vous savez, c'est un travail, c'est pas uniquement parler comme cela, ça se prépare. Alors, c'est une marche de la poésie, c'est donc un double travail, hein. Un travail physique, hein. Et un travail aussi, un triple travail, un travail spirituel dans la mesure où on va essayer de d'être habité par les lieux, par l'esprit des lieux que nous rencontrons, hein, en permanence, par le hasard des rencontres sur le chemin, et enfin un travail d'acteur, de poète, de comédien. Chose qui fait que même si on marche entre 15 et 20 km par jour, ou 10 km parfois, à l'arrivée, on est très, très, très fatigué. Et cette marche, donc, a duré 15 jours, hein, deux fois une semaine, et nous avons traversé toute notre région, cette vertèbre de l'Occitanie qui est les Corbières jusqu'en Catalogne.
Alors quand vous dites « on », vous n'étiez pas seul, bien sûr, on le voit d'ailleurs dans le film, hein, on voit toute une troupe de gens avec des drapeaux assez nombreuses. Qui vous a accompagné?
Alors en général, une marche se fait seule, sans cinéaste, sans personne, parce qu'il faut chaque fois imaginer une hospitalité, imaginer une infrastructure. Une marche se fait seule et c'est à l'arrivée et que le partage avec les autres se fait. Mais parfois, évidemment, il faudrait que je vous raconte toute l'histoire des marches. Mais au départ, je suis parti avec quelques étudiants des chantiers d'art provisoire que j'ai fondés à l'université du Mirail et qui nous ont accompagnés, et aussi avec Cara Moulas, qui est ma compagne, et qui, à travers ses actions, à travers sa parole, à travers ses mains, accompagne régulièrement ma poésie. Donc c'est à la fois, on est parti ensemble, on est parti avec un groupe, avec nos drapeaux transparents, car ces drapeaux que j'avais d'ailleurs imaginés lors d'une précédente marche de la poésie il y a de cela très longtemps, et que j'avais utilisé pour un rassemblement occitan, place du Capitole à Toulouse, il y a de cela près d'une vingtaine d'années. Et tous les soirs, on rencontre des amis, et puis c'est des rendez-vous. Hein. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, et puis on partage le poème, car la poésie se partage un peu comme le pain. Hein. Et c'est la même bouche, en fait, qui va manger le pain et qui va manger le poème. Et là, le récital s'installe, s'instaure, s'inaugure. Et puis on reprend, voilà, on reprend. C'est une marche, la poésie se fait avec les pieds. Lorsque j'étais enfant, on parlait des pieds de la poésie. Hein. Lorsqu'un alexandrin, soi-disant, avait 12 pieds, ce qui est entièrement faux. Hein. Y a beaucoup de confusion théorique là-dessus. Mais peu importe, la poésie se fait avec les pieds. Et j'ai voulu aller à la racine, si vous voulez, étymologique de ce pied. Et donc j'ai marché le poème. Hein. Le poème ne se met pas... Il n'y a pas de marché de la poésie, en fait. Il y a une marche qui va s'effectuer. Et c'est une façon aussi d'entrer dans une spiritualité, dans une sorte de yoga poétique, car la marche permet une libération de l'esprit et une ouverture, un contact avec le mystère de la création, et notamment celui de l'infini et du cosmos. Toute marche, lorsqu'elle se vit à l'intérieur de soi, et elle va établir un partage avec l'intérieur des autres et établir en commun un infini. Une marche est une spiritualité.
Alors, il y avait une communauté qui se rassemblait le soir, qui vous retrouvait.
Ça dépendait des soirs. Hein. Ça dépendait des soirs et chaque fois, c'était différent, évidemment. Il y avait nos amis occitans, Claude Marty, Mas de Brèche, qui nous attendaient après notre sortie de Carcassonne, etc., etc. Ça serait long à énumérer toutes les rencontres que nous avons faites et surtout les accueils, car il faut être attendu. Et les mains de Claude Marty ou de Mas de Brèche ont été des mains fraternelles et merveilleuses. Et puis tous ces gens, tous ces inconnus le long du canal, par exemple, qui nous attendaient ou qui ont été surpris par nos passages et avec lesquels nous avons entretenu des conversations et puis même des idées autour du poème, des enfants, des vieillards. Des étrangers, des marchands.
Pris de vous voir là, de cette démarche qui pour beaucoup devait être quand même loin d'eux.
Non, je crois qu'ils ne sont pas surpris parce qu'eux-mêmes marchaient. Donc un marcheur, quand il rencontre un autre marcheur, n'est jamais surpris par la marche. Mais ils sont toujours surpris par le poème. Mais le poème est toujours une surprise, même lorsqu'il est arrêté. Et parce qu'un poème arrêté, c'est aussi une façon de faire marcher l'autre à l'intérieur de lui. Et en fait, marcher pour un poème, c'est comme un pléonasme, parce que la poésie marche toujours. L'intelligence, elle est nomade. Elle n'est jamais arrêtée, l'intelligence. Et la poésie, c'est l'intelligence de la langue.
Elle est en marche, dirait quelqu'un.
L'intelligence est nomade et la bêtise est sédentaire.
Oui, ça peut être une bonne définition. Alors, Francis Fourcoux, vous qui avez été spectateur, mais un spectateur engagé, comme l'a dit quelqu'un qui était meilleur que moi il y a quelques années, comment vous l'avez vécu, cette marche ?
Oui, il faut dire que...
Est-ce que vous l'avez vu ? Vous étiez derrière la caméra.
Oui, alors, bon, bien sûr, je l'ai vu, je l'ai vécu. Je crois que Serge a diminué quelque peu la valeur de son engagement par rapport à mon engagement, parce que j'avais un film qui devait se faire, c'était Lorette, j'étais en préparation. Donc, c'était ces deux semaines, un peu plus, 16 jours où nous devions marcher. Bon, évidemment, c'était un moment qui n'était pas facile pour moi, hein, entre la mi-mai et la fin mai. Mais il faut dire que j'étais dans un événement personnel extrêmement douloureux. Et à ce moment de ma vie, je crois que, d'une certaine façon, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé d'aller marcher avec Serge et avec tout l'équipage que nous étions. Quelquefois quelques-uns, quelquefois plus nombreux. Mais comme l'a dit Serge, on était toujours seuls avec ce que nous attendions, parce que nous avons capté la marche, mais aussi tout ce qui finalement nous entourait, la nature, les oiseaux, le canal, le vent, la pluie, tous ces éléments qu'on a essayé de redonner dans le film comme étant des éléments d'environnement qui nous semblait être aussi partie prenante de notre voyage. Donc je crois que la marche, bon, Serge l'a dit, hein, je crois que les grands marcheurs, bon, je parle souvent évidemment de Bernard Olivier, qui est allé de Istanbul jusqu'à Xi'an en Chine, bon, qui a fait une expérience extraordinaire là, en traversant des pays, mais chaque fois, je crois, ce qui est important, c'est la rencontre. Nous,
avec quelqu'un d'autre ou avec soi. Moi qui ai beaucoup marché, qui ai traversé un certain nombre de déserts, ça a toujours été, parce que là on rencontre personne dans le désert, c'était plutôt la rencontre avec moi, un personnage que je ne connaissais pas très bien.
Les deux, je pense, les deux, parce qu'il y a eu des moments, bon, Serge a fait allusion de cette soirée avec Claude Marty et Mans de Breche au théâtre dans les Vignes à Coufoulens, qui était vraiment un point d'orgue.
On a reçu ici aussi sa directrice, mais sa fondatrice, hein, oui. qui était venue nous parler un peu de ce théâtre assez extraordinaire au milieu des vignes, complètement perdu, théâtre à l'italienne.
Oui, vraiment un moment magnifique, je crois, une sorte de point d'orgue comme ça. Mais il y en a eu plein des points d'orgue, hein, je dirais, dans cette marche. Donc il y avait cette question de l'environnement. Et nous, on avait en plus, avec, j'oublierai jamais Agnès, hein, donc qui a capté tous les sons. On prenait le temps de faire des ambiances en stéréo partout où on passait. Donc on a consacré aussi beaucoup de temps au son. Et je crois que ça s'entend dans le film, hein, la nécessité d'avoir
un temps,
comme
il y a
ça,
le vent, oui, le vent qui est
le
qui
vent,
nous a
les oiseaux, oui. tout ce qui nous a accompagné vraiment, la pluie. Donc ça, c'était des éléments sonores très importants. Toutes les ambiances qu'on a dans le film ont été captées au moment du tournage. Donc il nous fallait quelquefois précéder pour voir arriver Serge, les drapeaux, Chiara, Francis, tous ceux qui étaient là pendant cette marche. Et quelquefois, il fallait suivre parce que, justement, l'événement était devant. Et donc il y avait cette nécessité d'aller et venir en permanence. Donc ça n'a pas été une translation pour nous. Hein, ça a été comme un mouvement, comme le mouvement de la caméra, finalement, le mouvement de la cam, hein, donc qui va et qui vient. Donc il y avait quand même ça. Et ça a duré jusqu'au bout, je crois. Et plus l'étape, finalement, était courte, plus cette nécessité était forte. Quand on avait des très longues étapes, on prenait du temps. Quelquefois, il fallait qu'on rattrape. On prenait une heure, deux heures. On est obligé de rattraper. Donc, il est évident que les images ne se font pas toujours dans un tempo qui est celui de la marche. Donc, moi, j'étais handicapé, entre guillemets, par mon pied, ma caméra, Agnès avec tout son matériel, les batteries, les cartes de rechange. Donc, on avait quand même un équipage qui n'était pas uniquement préoccupé de la marche.
C'était un peu compliqué parce que d'ordinaire, quand vous faites un film, vous avez un scénario, tout est réglé, millimétré, des dialogues, etc., des plans. Tandis que là, c'était Serge qui donnait le tempo.
Oui, il fallait... bien sûr. La question qui se posait de façon majoritaire toujours, c'est voyons, nous allons faire aujourd'hui une marche de tel à tel endroit et qu'est-ce qu'il me paraît important aujourd'hui d'amasser comme images qui vont donner au montage la possibilité de diversifier les points de vue. Parce que la narration n'était pas vraiment complètement définie. Il y a toujours le problème dans un film, c'est de se dire, est-ce qu'on va travailler sur une continuité très linéaire qui va nous redonner la continuité temporelle du film. Alors, au début, au montage, on a été très tenté de faire complètement l'inverse, c'est-à-dire de casser cette linéarité du premier au dernier jour. Mais finalement, c'est très difficile. Donc, on a deux ou trois moments où on a cassé, particulièrement à la fin, qui est l'épilogue, qui est un retour en arrière de trois jours par rapport à cette marche, parce que symboliquement, c'était très important. Serge fait une sorte de rituel de libération de parole dans le camp de Rivesaltes, qui était magnifique.
Camp de Rivesaltes, rappelons-le, camp de concentration. Où on avait concentré les réfugiés espagnols de 1939.
Espagnols, juifs, harkis. Oui,
on a commencé par les Espagnols, hein, et après
oui,
les Allemands ont repris le procédé et ils l'ont réadapté.
Oui, il faut dire d'abord que c'est Vichy qui a créé ce camp.
Nous sommes les créateurs quand même des camps de concentration.
Voilà, donc c'est le prototype des camps d'internement français qui ont été les lieux où ont été rassemblés ceux qui sont partis malheureusement vers les camps de la mort. Et ça, c'est bien chez nous que ça s'est passé. Et avant, le scandaleux internement des républicains espagnols, de ces 500 000 frères qui sont passés par les frontières en février 1939 et qu'on a accueillis vraiment
On ne peut pas dire qu'on les a accueillis, on les a parqués sur accueillis. Les plages d'abord, dans ces plages catalanes, hein, balayées par le vent, le froid, enfermées derrière des chevaux de frise et surveillées par des tirailleurs sénégalais, baïonnettes au canon, c'était Serge.
Je voudrais faire un point d'orgue là, parce que quand on dit on les a accueillis, c'est pas n'importe qui les a accueillis, c'est la droite française, c'est les fascistes français. Parce que les solidarités ont été exemplaires avec le peuple catalan, le peuple catalan de la de français. Hein. Et c'est justement pour empêcher ces solidarités avec les comités antifascistes, avec le Parti communiste, avec les anarchistes, etc., etc., que la droite s'est mise en place et pour essayer de casser, notamment essayer de renvoyer tous ces Espagnols républicains dans les mains de Franco. Il ne faut pas dire jamais « on est dans une lutte de classe ». Et la guerre mondiale qui va éclater est une guerre de classe à l'échelon international. Donc c'est les vengeances du Front populaire. Hein, c'est la vengeance de ceux qui ont érigé le Front populaire. Il fallait le casser, il fallait casser cette mémoire. Et donc quand je dis « on », ce n'est pas les miens. C'est l'ennemi qui nous a fait ça. Il faut bien le comprendre. Hein. C'est-à-dire je refuse maintenant que disent « les Français ont accueilli ». Non, quels Français ? Les crapules, les racailles, les coyotes, les vautours, les oppresseurs. Ce n'est pas les nôtres.
Ouais, bah c'était une précision forte et utile.
C'est exactement ce qu'on dit oui. De Vichy. Vichy, c'est vraiment le gouvernement de la vengeance contre le Front populaire. C'est clair.
Alors ce film, pour revenir à lui, Serge Peille, vous avez dit tout à l'heure, vous avez été souvent déçu par les travaux de prédécesseurs de Francis Fourcault. Est-ce que vous y avez retrouvé ce que vous y souhaitiez ?
J'ai jamais été déçu par les prédécesseurs.
Vous avez un peu dit tout à l'heure que c'était pas ce qui avait été fait, c'était quand même pas terrible. Hein.
Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont disparu.
Ah, ils
les
ont
travaux
disparu.
Ont disparu. Les travaux ont disparu. Donc j'ai eu, par rapport à la caméra, souvent des expériences négatives.
Voilà. Alors celle-là était-elle positive
à vos
yeux ?
Puisque l'amour, c'est l'épreuve d'amour, comme dit le commun. Hein. Et puisque le film existe, c'est que vraiment c'est une expérience positive. C'est un film magnifique. Alors filmer le film, la réalisation d'un film, ça appartient à l'écriture. Un film est une variante de la littérature. Et lorsqu'on sait écrire, évidemment, on écrit d'une certaine façon. Francis Fourcault est un écrivain de cinéma. Et ça ne correspond pas du tout à un documentaire sur une marche. Hein. Ça correspond à une construction littéraire à partir d'événements de la marche. Je n'étais qu'un mot. Hein. Et lui, il a remis en scène ces mots dans une longue phrase qui est la sienne. Donc c'est son regard à travers ses propres pieds, mais ses propres yeux hein, sur la marche. C'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il racontait tout à l'heure. On ne peut pas calquer exactement, c'est comme un article journal, un fait divers ou une nouvelle que vous écrivez. Quel est le niveau de possible de fiction, de réalité ou de vérité? C'est toujours des possibles impossibles qui se réalisent. Hein. Et donc c'est une vision de notre marche avec, bien sûr, des moments dans lesquels on se reconnaît avec magnificence. Et Francis, il a fait... Parce que Francis, en fait, il a marché deux fois plus que nous. Hein, puisqu'il fallait nous rattraper, il fallait revenir en arrière, il fallait... Enfin, c'était... Et heureusement que c'est un grand marcheur.
Sûrement ça se voit plus, pas trop, mais
plus,
bon.
Plus grand marcheur que moi-même.
Oui, il y a eu des moments difficiles, parce qu'on voit un moment où il y a des ampoules, là, vous êtes assis au bord du canal sur une pierre, et on sent que là, c'est un moment difficile, hein, physiquement. La spiritualité n'est plus trop présente. Là.
Oui, bon, on a vu pire. Hein.
Certes.
Mais c'est difficile de marcher. C'est surtout difficile de marcher sans dormir tellement. Hein. Puisque même si on était hébergé le soir avec des gens formidables, c'est difficile de faire... de ne pas avoir l'esprit, parce qu'il faut l'esprit dans une paix possible, hein, qui ne l'est pas, parce qu'il faut penser à l'interview qu'on va donner, il faut penser au récital qu'on va faire, on est toujours préoccupé, parce que, quand on travaille le soir, c'est aussi un boulot, hein, ne croyez pas, c'est pas la marche, c'est pas une promenade. Nous ne sommes pas dans une promenade, nous étions dans une marche de combat. Hein. Et donc une marche de combat, c'est une marche qui est harassante. C'est-à-dire c'est comme si on marchait deux ou trois fois. Hein. Hein, lorsque vous êtes sur scène, c'est épuisant. Et après, il faut discuter avec les gens qui, eux, ne se rendent pas compte que vous avez une journée de marche derrière, etc., 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 etc. Alors il y a ceux qui vous donnent de l'eau et ceux qui ne vous en donnent pas aussi. Et ce sont ces partages-là qui sont intéressants.
Donc il y avait un engagement physique. Un véritable engagement physique.
Vraiment. Ouais. L'engagement est... Parce que si vous marchez 15 kilomètres ou 20 kilomètres dans la journée, Il faut imaginer que c'est 40 que vous marchez. Hein, parce que vous avez le travail de l'improvisation du soir.
Parce que tous les soirs, il y avait impro, il y avait spectacle, il y avait... On peut être poète avec une caméra ?
Ben, ça n'a rien à voir. C'est deux moments de l'image qui n'ont rien à voir. L'image de la parole n'a rien à voir avec l'image poétique, l'image cinématographique. L'image du cinéma... Vous savez, c'est l'histoire du feu. Hein. Le cinéma, c'est une technologie. Hein. Le feu qui va être donné par l'image du cinéma est une image qui a une direction. L'image du feu est une image que... à laquelle vous allez vous donner une direction, la cheminée par exemple. Hein. La télévision qui remplace la cheminée, avec la télévision, Francis Fourcou ne fabrique pas ses films de cette façon-là. La télévision est un feu totalitaire, alors que la cheminée est un feu libre, puisque nous allons mettre nos propres images, notre propre inconscient, dans les bûches qui vont brûler, dans ces braises. Hein. Donc ce sont deux images qui n'ont rien à voir. L'image de la parole, on ne peut jamais la filmer. J'avais fait une expérience avec mes étudiants en leur disant, à partir du poème de Breton sur la femme, ma femme, au sexe de glaïeul, aux yeux d'aiguille aimantée, etc., aux épaules de champagne, j'aurais dit, c'est pas des rébus les images. C'est pas des rébus. L'image d'un poème est impossible à réaliser. Ce sont des images impossibles. L'image du film est une image possible à réaliser. Même si elle a un au-delà, évidemment, et qu'on ne connaît pas, et qui va réveiller chez l'autre des mondes insoupçonnés. Mais ce sont deux façons. Une appartient à l'œil, et l'autre appartient à l'oreille. C'est la vieille dialectique qui existe entre la prophétie et l'apocalypse. L'apocalypse est une révélation, c'est une parole qui vient par l'œil et qui ressort par la bouche, alors que la prophétie est une parole qui rentre par l'oreille et qui ressort par la bouche. Donc ce sont deux moments, si vous voulez, d'un chemin qui sont divisés, mais qui, grâce à la magie de Francis Fourcou, vont se réunir.
Oui, Francis Fourcou ?
Oui. Dans le film, oui, c'est cette question de la parole est très importante parce que il y a, Serge l'a dit, une marche intérieure. Cette marche intérieure, nous l'avons rendue avec ce chuchotement qui est le partage de sa lettre à Machado, qui est un chuchotement dans le film. Parce qu'évidemment, dans ces moments de parole publique, la parole de Serge, d'ailleurs sur ses poèmes, je ne vois pas très bien comment on peut dire les poèmes de Serge autrement que quand lui les dit. Hein, le plus souvent, c'est assez décevant quand quelqu'un d'autre les dit, parce qu'il a, bien entendu, en tant qu'auteur, les auteurs ne sont pas toujours les mieux passés pour donner le texte de leur poème vocalement. Mais lui, je crois que voilà, il y a une sorte d'expulsion extraordinaire, voilà, une sorte d'explosion. Et ça, c'était quelque chose de merveilleux pour la caméra. Et ces moments d'intériorité, de paroles chuchotées. Moi, je crois que c'était très important parce qu'à la fin du film, il finit par nous chuchoter comme il chuchote aussi à l'oreille de Machado. Machado, ce confident qui nous accueille finalement, qui est là. Et c'est ce qu'on a essayé, au travers du montage, de rendre, hein, ces niveaux de paroles, mais qui correspondent, je crois, et pour le spectateur, à écouter, chuchoter à l'oreille ce que Serge avait à nous dire.
Alors vous n'êtes pas venu les mains vides puisque vous nous avez amené un peu de son. C'est la bande originale du film, je crois.
C'est la bande annonce.
La bande annonce du film. Ben, je vous propose de l'écouter.
Don Antonio. La poésie ce matin croise un nuage dans le ciel avec un aigle et un avion. Le temps lave ses eaux. Les escaliers chuchotent dans les couloirs. La lumière est rayée par la colère. Cher Don Antonio, je vous vois comme un pluriel, car dans votre cœur veillent 500 000 fantômes. Je marche aussi dans le poème. Parce que la poésie,
c'est le pain des pauvres. Et lorsqu'on marche, on marche comme les pauvres. Et j'ai trouvé fondamental qu'on puisse faire écrire, avoir ce courage insensé que d'écrire à un cimetière.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. C'est moi, détenu depuis 1976, qui arrache un clou dans le sabot du ciel avec le couteau de vos nuages.
Avec toi, nous récitons l'infini, mais la poésie ne suffit pas à ces poèmes. Nous marchons sur nos langues comme sur des chemins.
À bientôt, Don Antonio.
Voilà, nous retrouvons nos invités, Serge Peille et puis l'homme qui a filmé sa marche poétique, Francis Fourcault. Alors ce film est sorti là aujourd'hui, on peut le voir où et quand?
Alors la sortie nationale c'est le 14 mars.
Oui.
Et entre-temps, on va avoir quelques avant-premières, quelques débats. Alors pour signaler pour les auditeurs au plus proche de Toulouse, alors déjà... Nous ouvrons le mardi 13 mars à 20h30 au cinéma Utopia Tournefeuille. Donc, avec en présence de Serge, voilà, nous allons dialoguer avec le public après la projection. Alors, dans les dates aussi importantes, le 7 avril, nous serons à 16h au cinéma Cosmographe à Toulouse, à Albi aussi le soir. Et puis, entre-temps, le 7 mars à Perpignan, le 1er mars à Argelès-sur-Mer, le 12 mars à Caussade, à Elne, le 14 mars à Colomiers, à Fronton, Clermont-l'Hérault, au Balzac à Paris, au cinéma Balzac, à Pont-au-Combeau, à Saint-Quentin, à Yvelines, Chambéry, enfin voilà.
Voilà. Dans beaucoup de lieux, je me souviens de Elne où nous étions ensemble, Serge, parce que t'étais venu voir un fabuleux spectacle. Par contre, j'ai pas entendu Collioure.
Et non, Collioure, pas de projection à Collioure.
Pourquoi ne fait-on pas de projection à Collioure?
Je voudrais bien le savoir.
Chez Don Antonio.
L'adjointe à la culture a refusé que le film soit projeté. Nous avons fait quelques propositions et alors que dans un premier temps, c'était en collaboration avec la Fondation Machado, qui était fort déçue de ce refus. Mais bon, je crois qu'il y a des raisons...
Politiques, peut-être.
Pourquoi pas, j'en sais rien, mais on va peut-être arriver à le savoir. Mais en tout cas, elle a refusé de s'expliquer, l'adjointe au maire. Donc on ne sait pas aujourd'hui pourquoi il n'y a pas de projection à Collioure.
Qui ont enfermé les Espagnols à l'intérieur des camps. Ce sont les mêmes. Ce sont des races qui se reproduisent. C'est comme la mauvaise herbe.
C'est une question que j'irai poser pour vous, au maire peut-être de Collioure, qu'il m'arrive de croiser dans d'autres domaines. Alors, revenons à la poésie, surtout à la poésie de Serge. Qu'est-ce que c'est qu'être poète au XXIe siècle dans cette société où on ne parle que de fric, de finances, une société de marchandisation? Comment peut-on être poète? Et comment arrive-t-on à survivre dans ce milieu?
En France,
oui. Bon, déjà en France, après on peut évoquer d'autres pays, mais déjà chez nous.
Un peu comme avant. Hein. Être vivant, c'est forcément... inventer le poème. On ne peut pas aimer quelqu'un sans un poème. C'est impossible. Ceux qui ne savent pas écrire racontent leur poème dans l'amour. Ceux qui savent écrire l'écrivent, évidemment. Donc, pareil qu'avant, la poésie, c'est une relation étroite entre la vie et le langage qui vont se transformer l'un l'autre. La vie qui transforme le langage et le langage qui va transformer la vie. Il ne peut pas y avoir de vivant, d'humanité debout sans cette langue qui va s'inventer et qui va transformer le monde. Hein. C'est ça la poésie. Donc aujourd'hui, comment on peut être poète comme avant ? Exactement comme avant.
Mais est-ce qu'on les écoute, les poètes ? Parce qu'avant, on les écoutait, oui, il y avait des espaces. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours...
Absolument, les poètes sont très écoutés. La poésie se vend partout, ce sont des mythes. Vous savez, nous sommes fabriqués. La radio, pas la nôtre, pas la vôtre, ce sont des appareils idéologiques d'État. Hein. Et je me souviens, il y a quelques années, lors de l'anniversaire de la mort, je suppose, de Victor Hugo, FR3 avait invité Piccoli à dire des poèmes de Victor Hugo en remplaçant les publicités. Toute la France s'est arrêtée pour écouter Piccoli réciter Victor Hugo deux fois par jour à la télévision. Donc on ne doit pas reprendre l'idéologie des coyotes de l'information qui ce sont vraiment eux des ennemis de la poésie qui font croire que la poésie ne se lit pas. Gallimard vend 10 000 livres de poésie par jour. Vous voyez ce que ça veut dire ?
Des langues, donc, oui.
Quand on parle comme ça, on parle de l'idéologie. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie ? C'est Marx qui nous l'apprend. C'est un discours qui cherche à masquer le réel. Hein ? Et donc, la poésie ne s'est jamais mieux portée qu'aujourd'hui. Il y a des salles entières qui se réunissent. C'est vraiment quelque chose de dire le contraire. C'est vraiment aller dans le poncif, dans le lieu commun de l'idéologie dominante. Non, la poésie. Alors, être poète aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être aussi résistant. Ça veut dire un résistant par rapport à une chute du livre et de la lecture. Et ça veut dire être poète aujourd'hui, dire aux gens, lisez des poèmes. Achetez des livres, volez des livres, faites ce que vous voulez. Hein. C'est ça, être poète, ça ne veut pas uniquement dire lire de la poésie, ça peut vouloir dire la réciter ou l'écouter. Mais un résistant de la poésie, aujourd'hui, va essayer de faire lire le monde, et surtout de lutter contre le révisionnisme de l'histoire et de la culture, qui fait que le XXe siècle n'existera plus, bientôt, hein, dans la mémoire, et que l'école s'est écroulée en partie par les instituteurs et ces maîtres et maîtresses d'école formidables hein, qui transmettent la poésie tous les jours. Mais le XXe siècle s'est écroulé et on revient aux formes de la poésie du XIXe, hein, qui y a longtemps qui ont disparu. Et lorsque vous interrogez quelqu'un, la seule chose qui puisse vous déclarer de ce qu'on lui demande quel est le poète que vous aimez le plus, sans l'avoir lu en général, il répond Baudelaire, il ne l'a pas lu. Hein. Mais les Artaud, les Saint-Jean Perse, les Claudel, les Aragon, etc., c'est fini. Et donc aujourd'hui, être poète, c'est pas uniquement dire sa propre poésie. C'est dire aux gens qui nous entourent, lisez-les. Et donc mon travail consiste à faire lire les autres. Et parce que nous avons un devoir de mémoire et un héritage. Si nous existons, c'est parce que nous sommes des nains sur les épaules de géants, évidemment. Et être poète, donc, c'est être résistant. C'est être aussi dans un discours sur la vérité. Et être poète aujourd'hui, ça veut dire aussi qu'aucun aspect de la société ne peut être étranger à la poésie. La poésie n'est pas une histoire de jolis oiseaux qui vont tomber des nuages.
C'est un peu son image d'Épinal, on considère comme quelque chose d'un peu mièvre.
Rien n'échappe à la poésie, ni l'amour, ni la société, ni le combat. Et c'est très important. Par exemple, hier, j'ai écrit un poème pour trois camarades qui sont tombés à Afrin, hein, qui se battaient avec les forces kurdes, trois camarades internationalistes, et qui ont été assassinés par ils sont morts au combat avec honneur par les forces fascistes d'Erdogan. Et hier, j'étais obligé d'écrire. Je ne pouvais plus bouger si je n'avais pas écrit ce poème que j'ai envoyé. C'est ça, un poème. Mais tout à l'heure, je vais peut-être écrire un poème pour ma voisine qui est triste aujourd'hui. Et le poème que je vais écrire va lui rendre une joie du quotidien. Rien n'échappe à la poésie. Et vouloir cantonner la poésie uniquement à ce qu'on croit qu'elle est, c'est être contre la poésie.
C'est une poésie totale, totalement engagée ?
Engagée, mais pas engagée uniquement dans le politique. Hein, ça serait faux de penser cela. C'est une des parties minimales de la poésie. La poésie est une spiritualité. C'est une expérience de la spiritualité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et la spiritualité n'échappe à rien du tout. Et c'est l'idéologie dominante qui fait qu'on va essayer de convaincre les gens que la poésie, on va la cantonner uniquement à la lettre d'amour ou au jeu de mots. Et l'école organise la société comme un jeu de mots, mais en général, elle va créer des gens qui vont écrire des mots croisés ou du Scrabble. Hein, alors que la poésie, c'est autre chose. La poésie, c'est vraiment ce qui se perd dans la vie hein, et qui va la transformer, comme Machado. Pourquoi aujourd'hui il y a une boîte aux lettres sur la tombe de Machado ? Et c'est parce que c'est une spiritualité pratique, de terrain, une philosophie et qui est ici, qui se met en place. La poésie s'échappe. Elle ne reste pas dans le mot. Elle va créer un autre mot qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas écrire. Donc rien n'échappe à la poésie. Que ce soit la bicyclette, que ce soit le chien qui passe, que ce soit le soleil, que ce soit les étoiles, que ce soit, et surtout, ceux qui vont essayer de vivre debout contre les menteurs. La poésie, c'est le contraire du mensonge. Hein, ce n'est pas ce qui transfigure la réalité, c'est ce qui la réveille. La poésie ne fait pas rêver, comme le disait Joël Bousquet. Elle doit réveiller. Elle doit réveiller sur tous les aspects de la vie. Hein, que ce soit le morceau de pain que vous mangez ou la militante qui va se battre contre un fasciste turc.
Francis Fourcault.
Oui, je suis. Le cinéma aussi doit réveiller. Le cinéma a cette particularité, c'est que hein, cet aspect industriel, technologique, financier qu'il y a autour fait que si on veut garder un soupçon de liberté, il faut faire des films de pauvres. Et donc là, bon, je dirais, c'est un film de pauvre, parce que la pauvreté, c'était...
La pauvreté de moyens, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, la pauvreté à tous les sens du terme, c'est-à-dire on a marché pour faire ce film, voilà. Et la pauvreté, c'est la richesse des peuples. C'est parce que quand nous sommes pauvres, nous sommes obligés de chercher en nous-mêmes comment enrichir. Comment être riche, finalement. Et c'est de l'expression, c'est du rythme, c'est des images, c'est des sons, c'est des choses qui, finalement, ne coûtent rien, hein, que nous pouvons faire un film riche avec la pauvreté qui nous a accompagnés tout au long du trajet.
C'est aussi radiophonique, et ça pourrait s'appliquer, Occitanie Première, cette pauvreté, soyons clairs là-dessus. Alors, la poésie, ça s'écrit, ça se lit. Mais ça se dit aussi. Beaucoup disent Serge Pey, c'est un diseur. Et c'est vrai que quand on vous voit dire de la poésie, c'est aussi autre chose. Francis disait tout à l'heure, les poètes ne sont pas toujours les mieux placés pour dire leurs textes. C'est à peu près ce que vous avez dit. Serge, il est totalement habité par son texte. Et son texte prend une autre dimension quand c'est lui qui le donne.
Oui, mais c'est un sujet complexe. Je pense que chaque poète a la vérité de sa façon de dire le poème. Hein. Mais seulement, il y a des modèles qui sont en place. Et c'est en fonction des modèles, notamment des modèles du théâtre, qu'on va juger si un poète dit bien son poème ou pas. Ce qui est faux. Hein. Ce qui est faux. Un poète qui bégaye peut être aussi magnifique qu'un poète qui déclame en articulant. La poésie, la vérité de la poésie, de la transmission de la poésie, appartient à une intériorité. Ça serait, toute proportion gardée, on pourrait dire, par exemple, par rapport au discours amoureux. Hein, il y a des discours amoureux qui sont forts, hein, des discours amoureux qui sont moins forts. C'est pas vrai. Quand on aime, qu'on soit pauvre ou riche, et la parole qui ne se dit pas dans l'amour est toujours la même, même peu importe le temps qu'elle va durer. Je suis un troubadour. Je suis un héritier des troubadours. La courtoisie des troubadours, c'était de dire la poésie à haute voix face aux autres. Donc je me suis toujours appliqué hein, pour dire, pour répondre, si vous voulez, à cette tradition des troubadours. Mes ancêtres disaient les poèmes. Et ils les disaient avec leur lutte, avec leurs instruments de musique, en les chantant. Et ils étaient reçus dans les cours. Aujourd'hui, dire un poème, c'est inventer encore la cour d'un château. Et rencontrer quelqu'un, c'est lui dire « invite-moi dans ton château », même si c'est une masure, même si c'est un HLM. Et c'est à l'intérieur de ce château, de cette courtoisie, hein, que le poème va se dire. Et donc là, on va dire le poème. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la poésie, l'écriture de la poésie a toujours une oralité et que toute oralité de la poésie comporte son écriture. C'est un va-et-vient incessant entre l'oralité et l'écriture, la poésie. La poésie, c'est le lieu du langage où il y a le maximum de corps, c'est-à-dire d'oralité. Mais toute la question que vous me posiez est une question sur, l'improvisation de la poésie, sur la façon de la transmettre. Mais c'est vraiment autre chose. Dire des poèmes, les gens qui ne me connaissent pas lisent mes poèmes. Et ils ne m'ont pas souvent entendu. Les gens qui me connaissent, connaissent mon intention, ma force, ma boussole, hein, qui va dire le poème, ma langue. Et c'est vrai qu'ils préfèrent, par amitié, par je ne sais plus pour quelle raison, ma façon de dire. Mais j'ai écouté des comédiens dire des poèmes, mes poèmes, d'une manière majestueuse. Quand Voltaire disait mes poèmes sur France Culture, j'ai redécouvert. Et chaque fois, l'autre jour, Weber, par exemple, à Paris, et lorsque j'ai entendu dire mes poèmes, c'est un grand acteur, j'ai été ravi, ou Laurent Terzieff, par exemple. Mais je découvre un aspect de la poésie, de ma poésie, que je ne connaissais pas.
Parce qu'il l'interprète.
Et parce que chacun
se le réapproprie.
Voilà, chacun porte quelque chose dans son. La poésie est une expérience de l'interprétation du poème. C'est-à-dire qu'un poème, il est infini. Un poème ne sert pas. Il ne faut pas chercher à comprendre un poème. Un poème, ça sert à comprendre. Et c'est une polyphonie, une polysémie infinie. Et chaque fois que je relis un de mes poèmes, ou le poème d'un autre, surtout, j'y découvre quelque chose que je n'avais pas prévu ou que je n'avais pas imaginé un seul instant. Et lorsque quelqu'un dit le poème à ma place, il va privilégier, d'une manière inconsciente, un monde, un cosmos, hein, ou même un chaos que je n'avais pas imaginé. Donc c'est une aventure infinie. Dire un poème est une aventure infinie.
On ne peut pas faire un parallèle, peut-être vous trouverez qu'il n'est pas, fondé avec la musique et l'interprétation qu'on peut avoir de...
Oui, peut-être on peut faire un parallèle, à part que la poésie est sémantique, que la musique ne l'est pas.
Alors la poésie, ça s'écrit aussi, et la calligraphie, puisque vous êtes aussi connu pour l'écrire sur des bâtons. C'est une question dont on parlait hors micro. Il y a des bâtons de comment vous les appelez, des bâtons de poésie, c'est ça?
Bâtons de parole.
Bâtons de parole. Il y en a d'ailleurs dans cette maison, à l'hostel d'Occitanie, d'où nous émettons. Il y en a trois en bas, là. Qu'est-ce que c'est que ces bâtons de parole? Bien,
c'est parce que c'est la même histoire que la marche. La poésie est une marche à l'intérieur de l'être. Et pour marcher à l'extérieur, il faut des bâtons pour se battre sur le chemin, lorsqu'on fait des mauvaises rencontres, pour ne pas tomber dans les précipices, pour établir un balancier dans un passage à gué, par exemple, etc., etc. Donc le bâton est une métaphore du poème. Hein, un mot est un bâton, un bâton du langage. Et le bâton, c'est cette métaphore-là. Et depuis très 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 longtemps, j'ai écrit mes poèmes sur des bâtons pour des histoires assez pratiques. Hein. C'est-à-dire que quand j'étais en public, c'était plus facile pour moi d'avoir des textes écrits sur des surfaces verticales, des bâtons notamment, que sur du papier, hein, parce qu'il fallait tourner les pages, etc. etc. Et puis surtout, parce que j'avais besoin de bouger et de rythmer mon poème avec les pieds. Je mettais des grelots, tout le monde croyait que c'était des grelots africains ou d'Amérique latine. Non, non, je reprenais la tradition des 10 heures de mon Occitanie, hein. Et parce que l'impérialisme ne sait même pas ce que nous sommes. Et donc ils vont chercher des exemples bien loin, alors que chez nous, il y avait des éléments qui ont constitué la poésie inimaginables, notamment comme les poétesses improvisatrices de la mort, ces pleureuses que nous avions dans le Béarn et qui ont disparu. Et dire les poèmes en cadence avec le bâton, ça m'a... En même temps, je peux vous raconter 1000 histoires, pourquoi le bâton ? Mais c'est pour cela que j'ai essayé de faire des fagots de poèmes et que partout un peu, j'imagine aussi que la poésie est comme une grande acupuncture, là, vous savez, et que le corps de la terre est malade, et je plante mes bâtons, comme je les ai plantés d'ailleurs,
dans un
film de Francis Fourcou, oui. Sur Saral, sur un satellite que nous avions, enfin pas nous, mais qui a été envoyé dans le ciel, et Francis, il a filmé ces bâtons que je plantais au pic du Midi, dans la mer, au bord de la Garonne, etc., etc. C'est une façon aussi de jalonner le monde. C'est aussi ces bâtons que j'ai plantés sur la plage d'Argelès.
Voilà, tout à fait.
D'Argelès, c'est là où mon père était enfermé, ma famille, pas que mon père d'ailleurs, où il y en a la moitié qui sont morts. Et parmi les baigneurs qui étaient là, enfin, il faisait un peu la tramontane ce jour-là. J'ai planté les bâtons avec la photo de mon père. Et les gens n'ont pas bougé.
Oui, c'est assez étonnant. On voit ces gens qui sont là, et puis ils voient un homme avec des bâtons qui plante des photos dans le sable.
Et ces bâtons qu'on a plantés dans le sable, il y a une cinquantaine de bâtons plantés dans le sable. Pendant que je disais mon texte au mégaphone, ils sont restés plusieurs jours. Personne ne les a enlevés. Comme quoi, la poésie crée une présence existentielle qui appartient à l'ordre de l'indicible et qui questionne réellement dans sa spiritualité celui qui l'entend ou celui qui va la vivre. Ça, c'est une expérience. Chaque fois, dans le monde, par où je passe, là où je crée une situation de poème, cette situation était irrémédiable. La situation du poème est semblable à la situation amoureuse. Peu importe ce que va devenir le poème ou ce que va devenir l'amour, lorsqu'il y a une situation amoureuse, on s'en souvient toute sa vie. Et le poème est comme l'amour, on s'en souvient toujours.
Vous êtes un poète solidaire et engagé parce que vous êtes sorti souvent de France, vous êtes allé dans beaucoup de pays, exporter votre poésie, si je puis dire. J'ai vu que vous aviez également, vous étiez intéressé à la poésie palestinienne. Vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui, la poésie palestinienne, quand je faisais la revue Émeute, j'ai édité la première...
Oui, parce que vous avez été éditeur aussi, vous avez...
J'ai édité une revue qui s'appelait Émeute et une autre qui s'appelait Tribu. Voilà, il y a un collectif qui s'appelait, mais il y a très longtemps. Et dans la revue Émeute, j'avais fait un numéro spécial pour les poètes palestiniens, et notamment pour Mahmoud Darwish, qui a écrit dans ma revue. Et c'est à travers les textes qu'il m'avait envoyés que nous sommes devenus amis. Mais ça, il y a très longtemps, c'était en 1973. Voilà. Mais je n'ai pas fait qu'éditer la poésie palestinienne. Ce n'est pas parce que c'était des Palestiniens que j'ai édité la poésie, c'est parce que c'était des poètes, hein, et qui représentaient un espace culturel important que je les ai édités. Mais j'ai édité aussi les poètes polonais sous l'état de siège, réprimés sous l'état de siège en Pologne, à l'époque du stalinisme, ou Vaclav Havel, par exemple.
Je dévorerai la bureaucratie comme un loup.
Je dévorerai la bureaucratie comme un loup, c'est Mayakovsky qui disait ça. Et ou Vaclav Havel, quand j'ai fait les Funambules de Prague. C'est comme ça que cette modeste revue que je faisais à Toulouse, Tribu, a été la seule à avoir publié le prix Nobel. Jaruzel Seifert, il y a de cela longtemps, etc. etc. Ou Henry Miller, aux États-Unis. Ou Phan Con Thien, qui est un poète vietnamien. Mais ce qui m'a toujours engagé, c'est pas tellement l'aspect politique, mais c'est l'aspect spirituel de la poésie. J'ai beaucoup plus publié ou écrit des poèmes philosophiques et spirituels que des poèmes engagés. Mais on ne retient évidemment souvent que les poèmes engagés, alors que par exemple pour l'Occitanie, j'ai écrit Nihile Consolamentum, qui est un livre de théologie cathare, hein, et qui est pour moi plus important que d'autres textes, mais ni plus ni moins, je ne dirais pas plus important, mais si j'avais à sauver un livre, je sauverais Nihile Consolamentum. Voilà, par exemple.
C'est important, le catharisme, pour vous ?
Et oui,
qu'est-ce que ça représente pour vous, fondamentalement ?
Le catharisme est important parce qu'il m'a été transmis par des poètes que j'ai beaucoup aimés, hein, comme Yves Rouquette, et qui m'ont fait comprendre des choses essentielles, ou Bernard Mancier, qui n'était pas cathare du tout, mais enfin, ce sont mes amis qui m'ont accompagné dans l'histoire de la poésie, hein, en Occitan, et certains m'ont traduit, j'ai moi-même, c'est eux qui m'ont fait écrire en Occitan, la poignée de poèmes, la cinquantaine de poèmes que j'ai dû écrire en Occitan, c'est dans leur... C'est dans la respiration que je l'ai fait. Le catharisme, oui, était important. Pourquoi ? Parce qu'il pose le problème du langage, de la langue. Et sans lui, rien n'a été fait. Lorsque vous traduisez mal, vous traduisez d'une autre façon, il y a un génocide théologique qui va se mettre en place, doublé d'un système oppressif de l'impérialisme français, enfin, qui n'existait pas à cette époque-là, mais qui commence à se constituer. Mais c'est avec le langage, le catharisme donne le langage. C'est-à-dire l'évangile de Saint-Jean. Et l'évangile de Saint-Jean, c'est mon évangile. Quand même, puisque c'est l'évangile de la parole. Et comment s'opposer à une religion qui reprend en compte l'évangile de Saint-Jean, qui est l'évangile le plus beau, un des plus beaux textes écrits sur la parole et la divinité de la parole. Donc le catharisme a été... En même temps, c'est aussi une façon de déterrer les mots et de dire que toute poésie est une traduction. Voilà, parce que les cathares traduisent. Les cathares traduisent, ils vont... Le livre des deux principes de Bartholomé de Carcassonne, par exemple, ce sont des textes qui ont été écrits en latin, mais aussi en occitan. Et la poésie est toujours une traduction, y compris dans sa propre langue. Et en même temps, tout le secret, tout le mystère qui va irriguer la parole poétique, et que les troubadours ont écrit d'une façon clandestine souvent, hein, parce que les périodes étaient très difficiles, alors, parce que le laurier, c'était éteint, le laurier avait brûlé. Aujourd'hui, on dit qu'il a ressuscité, le laurier, tant mieux. C'est peut-être ça la poésie. Imaginez que le laurier ressuscite aujourd'hui.
Il y a un rapport entre Dieu et la poésie ?
Dieu, je suis un athée. Dieu, c'est... Dieu, c'est une façon d'essayer de parler du sacré. Le sacré... Alors, le sacré est complémentaire au poème. On peut pas. La poésie appartient au sacré. Le sacré, c'est une façon d'une horizontalité de ce que nous ne comprenons pas et qui fait qu'on va célébrer le vivant. Il faut établir une différence entre le religieux, le divin et le sacré. Hein. Le religieux est la confiscation complète. Le religieux, c'est la confiscation complète de cette expérience du sacré que tout individu peut avoir. Par un groupe d'hommes, hein, c'est ça le religieux. Donc je ne suis pas un être religieux, je suis forcément contre le religieux. Mais quant à Dieu, le grand barbu, le Père Noël, etc., c'est pas du tout ma représentation de l'inconnu. Je trouve que le poème est le seul lieu réellement où on peut penser une chose qu'on peut nommer le divin, hein, c'est-à-dire cet inconnu de la création du cosmos, quelque chose, mais sans l'ego. Dieu me fait penser toujours à la projection de l'ego de l'humanité, et en ce sens, je reste freudien et matérialiste, ce qui ne veut pas dire que mon athéisme ne soit pas une spiritualité. Hein. Bien au contraire, hein, et que la poésie reste une spiritualité. Tous mes amis, Guillevic qui était communiste, ou même que Neruda, c'était des gens qui étaient dans une spiritualité, mais ils ne pouvaient pas remplacer la poésie par Dieu, c'est créer une religion. Et une religion, c'est toujours un poème qui a mal tourné.
Merci Serge Peille, merci Francis Fourcault. De cette belle émission, de cette belle heure passée avec vous. On aurait pu en passer de nombreuses, mais peut-être que vous accepterez un jour de revenir à ce micro pour nous dire des poèmes, pourquoi pas. Merci, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Jean-Louis Arzac. La semaine prochaine, nous parlerons de dépendance et de maintien à domicile, peut-être un domaine dans lequel la poésie pourrait trouver à s'investir un peu. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Occitanie Première ainsi que sur le site de la station. N'oubliez pas, rediffusion de l'émission demain mardi à 12h ainsi que le week-end prochain. Qu'on se le dise, bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.